L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Trois quarts des établissements scolaires n'ont pas une équipe pédagogique complète. C'est le résultat d'une enquête du syndicat enseignant SNES-FSU alors que la nouvelle année scolaire a débuté. Une pénurie d'enseignants qui impacte la scolarité des élèves. Alors, quelle est la situation en Sarthe? Nous recevons Fabien Esteliano, vice-président de la FCPE 72. Bonjour. Alors, rappelons d'abord qu'Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, a voulu se montrer, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale a voulu se montrer rassurante le jour de la rentrée en affirmant que quasiment pas de poste d'enseignant n'était pas pourvu. On a du mal à comprendre dans ce cas les résultats de l'étude du SNES-FSU. Quelle situation est-ce que vous constatez sur le territoire sarthois, Fabien Esteliano?
Alors, non, il y a vraiment cette ambiguïté-là. Il y a vraiment ces deux situations-là, c'est-à-dire qu'il y a une part importante des établissements qui ont quand même du monde chez eux. Mais il est vrai, l'étude de la FSU, mais elle a été relayée encore par un autre syndicat ce week-end qui a donné à peu près les mêmes chiffres. Il est vrai qu'il y a énormément d'établissements, un sur deux, qui parfois ont un manque de personnel au sein de l'établissement. Mais ça peut être donc là, vous parliez du pédagogique, mais je voulais aussi rajouter qu'il y a plein d'autres personnels qui sont très importants dans les établissements et qui manquent vraiment, on l'a vu aussi en Sarthe.
Effectivement, on va y revenir. Mais du coup, pour rester pour le moment sur les enseignants, est-ce que ça représente beaucoup d'enfants qui n'ont personne devant eux dans les classes?
Non, mais ça peut c'est assez disparate. Hein. C'est-à-dire que comme il y a l'éloignement parfois de notre département, il est rural et il est éloigné du centre de l'académie qui est à Nantes. Donc évidemment, le personnel, par exemple, parfois est plus difficile à trouver dans les parties extérieures. Si je prends un exemple, à la rentrée, il manquait un enseignant en maternelle aux abords d'Alençon, mais sur le territoire sarthois. Et ça, c'est toujours très difficile à trouver un enseignant parce qu'on ne peut pas aller le chercher dans les académies normandes. On est obligé d'aller le chercher dans nos académies, notre académie de Nantes, et pourtant après il faut trouver à pouvoir l'emmener aussi loin parfois de son lieu de résidence. Donc ça, c'est aussi une des grosses difficultés, c'est qu'on est en périphérie d'une région qui elle-même est très très étalée.
Donc du coup, il y a des situations géographiques qui expliquent aussi cette pénurie d'enseignants. Il y a des territoires qui sont plus touchés que d'autres.
Ah oui, complètement. Il n'y a pas de doute que les territoires, par exemple du Nord Sarthe, en souffrent particulièrement. Mais comme le département de la Sarthe est quand même très centré sur le Mans, qui est lui-même au cœur même de géographiquement, évidemment que toutes les périphéries du département souffrent également de ces difficultés-là. Et puis, d'autre part, il faut voir que c'est aussi des disciplines en particulier qui sont touchées. On a, je crois qu'il faut dire la vérité, je crois que le français est haut la main la discipline qui pose des vrais problèmes. On a le cas actuellement, ces jours-ci, je n'ai pas vérifié encore aujourd'hui, mais globalement sur Conneret ou sur la Ferté-Bernard, on a des difficultés sur les enseignants de français, avec des gamins en 6e ou en 5e, quoi, qui n'ont pas français. Donc ça touche. Les parents viennent d'envoyer leur enfant, je le sais, en plus ma fille vient d'arriver en 6e par exemple, on vient d'envoyer notre enfant au collège, c'est un chamboulement, et ne pas avoir d'enseignant de français, qui est quand même une matière assez importante dans la vision des parents, c'est quand même toujours très choquant.
Et encore, dans le cas du secondaire, on a plusieurs professeurs, donc bon, il en manque un, c'est embêtant, mais on peut quand même avoir cours. Mais dans le primaire, c'est différent, puisque les enfants n'ont qu'un enseignant, parfois ils en ont deux dans le cas d'une alternance, mais en général il y a un enseignant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces élèves s'ils n'ont pas d'enseignant pour leur faire classe?
Alors, justement, dans les maternelles, ce qui peut... on parlait tout à l'heure des personnels un peu divers. Dans les maternelles, ça peut être les ATSEM, donc ces agents territoriaux qui s'occupent des écoles maternelles.
C'est quoi leur rôle concrètement, ces ATSEM?
Alors, les ATSEM, normalement, sont là pour accompagner les enfants dans leur vie, dans la classe, mais ne sont pas là pour donner de l'enseignement. Mais très souvent, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de nos écoles, elles sont aussi là parfois pour pallier à certaines absences. Elles ne devraient pas, oui, elles ne devraient pas, restons, il y a des hommes aussi, elles ne devraient pas le faire, mais très souvent, le pragmatisme fait que ces agents sont là aussi parfois pour pallier aux difficultés de ces absences. Et puis, nos gamins, ils sont envoyés dans les autres classes. Ça, c'est aussi une des grosses difficultés, c'est que parfois, on ne le voit pas quelques jours parce que ben, un gamin en maternelle, il n'est pas toujours apte à nous le raconter. Et parfois, nos enfants sont redispatchés dans d'autres classes. Plus l'école est grande, plus c'est facile à cacher, disons, à l'observation immédiate.
Ah oui,
mais ça arrive souvent.
Mais on imagine que du coup, sur des petites écoles avec très peu de classes, si on commence à dispatcher les classes dans les autres classes, très vite, ça devient une surcharge pour les enseignants.
Complètement. Et les enseignants sont obligés d'inviter les familles poliment à pouvoir tenter de garder les enfants chez eux. On le répète, ça n'est pas une obligation. L'école devant accueillir normalement nos enfants, on peut laisser nos enfants. Mais c'est la grande difficulté aujourd'hui, ouais, pour beaucoup de parents, c'est de faire ce choix entre est-ce qu'on disloque une éducation nationale qui ne va pas très bien en retroublant les choses parce qu'on met des enfants supplémentaires dans des classes à côté, ou est-ce qu'on fait tout pour essayer de le garder les 2-3 jours potentiels grâce aux grands-parents, grâce à des RTT, grâce à du télétravail, on arrive à s'organiser.
Et alors, est-ce qu'il s'agit, cette situation qu'on connaît aujourd'hui en Sarthe, est-ce qu'il s'agit d'une situation inédite, Fabien Esteliano, ou bien il s'agit de la prolongation d'une tendance qui dure déjà ?
Ah oui, non, c'est vraiment, comme vous le dites, une tendance qui a bien démarré il y a longtemps. Mais il faut dire, par exemple, un truc tout bête. Si on illustre des choix politiques qui ont vraiment troublé les choses. On prend la réforme des lycées qui a eu lieu, par exemple, en 2019. À cette rentrée-là, je pense que c'est la pire des rentrées dont j'entends parler pour le nombre de professeurs principaux qui n'existent pas dans l'administration des lycées.
Et alors, pourquoi vous l'alliez à cette réforme ?
Parce que depuis cette réforme, on a disloqué un petit peu les équipes d'enseignants. Et du coup, il y a certains enseignants qui voient peu les enfants au sein, enfin les jeunes au sein des classes. Donc avant, on savait qu'une classe de 35 était avec 7 enseignants différents. Aujourd'hui, une classe de 35, elle est avec 3 enseignants tout au long de l'année à 35, et puis avec plein d'autres enseignants disloqué avec des mélanges de classes.
Parce qu'on éclaircisse un peu les choses, la réforme de 2019, c'est celle qui a instauré les enseignements de spécialité, c'est bien ça ?
Exactement, c'est cela, oui.
Alors, comment expliquer cette pénurie de profs ? Est-ce qu'il s'agit d'une crise de vocation ? Elisabeth Borne, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, faisait le pari de réformer la formation des enseignants. Mais est-ce vraiment le cœur du problème ? On écoute le témoignage d'un jeune professeur qui a préféré rester anonyme. C'est pas le bon son, excusez-moi.
J'ai postulé dans les services du rectorat, en particulier assistant pédagogique d'abord et ensuite professeur contractuel l'année dernière. J'ai beaucoup galéré. Déjà l'année dernière, ça avait été pareil. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du travail. On m'avait contacté le 12 septembre l'année dernière. Et là, cette année, c'est à peu près la même chose. J'ai attendu 2 semaines après la rentrée avant d'avoir une réponse du rectorat. On devait faire des vœux, comme les titulaires, donc vers mars-avril de cette année. Et l'été est passé, et septembre, et la rentrée est passée. Et donc, il a fallu attendre encore un peu. J'ai relancé soit par mail, soit au téléphone, puisqu'on a une cellule d'écoute. Mais la cellule d'écoute nous disait « Bon, ben voilà, écoutez, les affectations sont en cours. Revenez la semaine prochaine, retéléphonez à ce moment-là si jamais vous n'avez rien. » L'année prochaine, je ne l'envisage même pas puisque ce sont des contrats à l'année. Donc je pense malheureusement que ça va être à peu près la même chose l'année prochaine. Donc ils n'avaient pas eu Histoire Géo pendant 2 semaines. Et donc ces 2 semaines-là, ben, forcément, il faut les rattraper à un moment donné. C'est quand même assez... j'ai envie de dire stressant pour les élèves d'abord et pour les parents d'élèves ensuite.
Fabien Esteliano, comment est-ce que vous réagissez à cet extrait ?
C'est évident, on a eu une tribune, là, je crois, dans Le Monde la semaine dernière qui nous racontait le même type de situation où les enseignants sont appelés tardivement alors que certaines absences auraient pu être prévisibles, surtout dès la rentrée palpable. Et ça, on le vit et on va le vivre tout au long de l'année. Là, ce sont des phénomènes qui sont les plus facilement lisibles. Mais en réalité, ça se passe tout au long de l'année où on a une enseignante qui va partir en congé parental ou de naissance et qui, donc, a une date précise et qui, malgré cela, n'arrive pas à être remplacée. Alors même que sa discipline est remplacée ailleurs. On a, par exemple, là... une enseignante qui remplace dans un collège du Mans en lettres modernes, elle est, et elle devrait remplacer des lettres classiques, c'est-à-dire que le latin ne va pas être remplacé. Alors même que peut-être qu'une enseignante de remplaçante est aujourd'hui avec la qualification de lettres classiques et dans un autre établissement à ne faire que du français. Et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'on a l'impression que c'est un jeu de chaises musicales pas très très bien géré avec une très mauvaise musique.
Et d'ailleurs, ce n'était pas pour autant pour nier l'existence de la crise de vocation chez les professeurs. Les éléments que vous soulevez y participent sans doute. Les professeurs manifestent souvent pour témoigner de la difficulté du métier, d'un salaire jugé peu satisfaisant par rapport à la charge de travail et à leur engagement. Rendre plus attractif le métier d'enseignant, est-ce que ça fait partie des revendications de la FCPE ?
Ah mais bien sûr, c'est évident. Nous, ce que l'on veut, c'est que nos enfants soient dans des situations de bien-être dans les établissements scolaires, et le bien-être passe par des gens formés, par des gens heureux d'être là. Votre intervenante, Madame Pommier, tout à l'heure, parlait de qualité de vie au travail. Elle a beaucoup parlé de ressources humaines, elle a beaucoup parlé de formation, de gestion des arrêts maladie. Tout ce que l'éducation nationale ne fait pas aujourd'hui. Donc évidemment, nous aussi, on est partisans d'amélioration dans les ressources humaines au sein de l'éducation nationale.
Alors, on a évoqué le manque d'enseignants et de professeurs, des AESH aussi, parce que les professionnels de l'éducation nationale, ce sont aussi des accompagnateurs, en fait, notamment des accompagnateurs pour élèves en situation de handicap. Les AESH, est-ce qu'on en manque aussi en Sarthe, Fabien Estéliano ?
Ah oui, ces accompagnants-là sont dans une gestion pareille de ressources humaines, trop peu humaines. On leur demande d'aller une année dans un établissement, puis l'année suivante dans deux établissements différents, géographiquement extrêmement éloignés. On les prévient parfois à la dernière minute. Là, aujourd'hui, la réalité aussi des notifications qui ont lieu, donc c'est-à-dire en gros, on dit un enfant va avoir besoin de 6 heures par-ci, de 12 heures par-là. Même ces choses-là vont évoluer dans l'année. Donc c'est évident que des accompagnants à AESH ne peuvent pas avoir un poste fixe dans un lieu fixe s'il n'y a pas une ressource humaine intelligente là-dessus.
Face à cette difficulté de l'enseignement public, est-ce que les familles tendent davantage à se tourner vers l'enseignement privé en Sarthe ?
Alors, c'est pas si notoire. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. On parlait tout à l'heure de l'hôpital et des cliniques.
Avec le pôle Santé Sud.
Voilà, exactement. La réalité, c'est que l'enseignement public, on le sait, est réalisé par des enseignants qui, en moyenne, dans les données, sont plus formés. Donc l'idée, c'est qu'on sait quand même qu'il y a une capacité aujourd'hui d'avancer dans un collectif qui peut être plus bénéfique. Néanmoins, le mal-être que l'on vit, nous, en tant que parents, c'est que sur cette ressource humaine, on n'arrive pas, l'éducation nationale n'arrive pas à garder du personnel qualifié, à le garder dans des conditions humaines bonnes, et tout cela se répercute sur nos enfants. Mais globalement, on sent bien que intellectuellement, ils ont plein de choses à apporter à nos enfants dans l'enseignement public.
Alors, vous l'avez dit, on parle d'une tendance qui dure depuis déjà plusieurs années. Quels espoirs placez-vous dans le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé à la suite de la démission de François Bayrou et qui devrait être formé dans les prochains jours ? Est-ce que vous vous attendez à des mesures concrètes sur le sujet du manque de professeurs et d'enseignants et de personnel de l'éducation nationale ?
Je ne dirai pas tout de suite un non par respect. Mais si je regarde un peu ce qu'est le socle gouvernemental, c'est Renaissance, Horizon, le MoDem et les Républicains. Si je regarde leur gouvernance localement, en région, Pays de la Loire, au ministère de l'Éducation nationale par le passé, si je regarde leur gestion sur certaines décisions départementales, si je regarde les résultats des examens, il y a plein de choses qui me font me dire non. Aujourd'hui, je ne peux pas porter une confiance pleine envers les décisions du gouvernement. Et puis je le répète, ce que je voulais dire tout à l'heure quand même, c'est que nos gamins, ils sont dans des difficultés face à des assistantes sociales aussi, des assistantes sociales qui ne sont pas là, face à plein de personnels, il y a des secrétaires d'intendance qui ne sont pas là dans des établissements, et c'est tout un dispositif qui ne fonctionne pas. Et je le répète, donc voilà, je ne crois pas. Le cœur, par exemple, le milieu aujourd'hui du socle commun de ce gouvernement,
Le nouveau gouvernement n'a pas encore été formé.
Tout à fait. Si on considère aujourd'hui ce sur quoi ça tourne depuis plusieurs temps, on est sur un socle qui tourne, on va dire, sur l'aile droite de Renaissance ou sur Horizon. Je répète, Madame Morançais fait partie, vice-présidente de ce parti, n'a pas prouvé aujourd'hui qu'on était capable de faire des économies là où il fallait les faire. Par exemple, lorsqu'on fait des économies sur de la radio associative, lorsqu'on fait de l'économie, des économies sur de la politique de l'emploi, lorsqu'on fait des économies sur la culture...
Je précise que vous faites référence aux coupes budgétaires décidées par le Conseil régional fin 2024.
Tout à fait. Quand on fait ces coupes-là, ça n'est pas possible aujourd'hui de nous faire croire que la gouvernance pourra bien se passer avec le gouvernement à venir. Mais nous le souhaitons. Nous souhaitons que vraiment, ils tentent les choses mieux. Mais... Je reprends, n'oublions pas, localement par exemple, M. Lecornu avait, aux élections municipales, on est à quelques mois des prochaines municipales, il avait en numéro 4 une candidate de mémoire Mouvement pour la France. Donc je ne crois pas aujourd'hui que ces propositions, créée par M. De Villiers, je ne crois pas aujourd'hui que les propositions de M. Lecornu seront à faire avancer l'éducation nationale comme on le souhaite. On a des propositions, on les a publiées sur notre site, on les a envoyées également au gouvernement. Ils sont au courant de ce qu'il faut faire pour l'éducation nationale et ce sont plein d'avancées, plein de réflexions sur comment remettre les enseignants au cœur de l'école, comment mettre l'enfant et la coéducation au cœur de l'école. C'est comment avoir des postes supplémentaires tout en réfléchissant. Vous savez, un truc tout bête. On parle ces derniers jours des subventions, enfin de l'argent non payé d'impôts par nos entreprises. Si on regarde uniquement l'exemple de Sanofi, c'est 1 milliard en 10 ans que l'État a redonné. Ce milliard, c'est l'équivalent de 10 ans de postes du premier degré qui ont été mangés par l'ère Macron. Donc ces postes-là, si on n'avait pas donné 1 milliard à Sanofi qui n'a pas su faire de vaccins, on aurait pu le donner en cadeau plus à nos enfants grâce à des enseignants face à eux. Tous ces postes qui ont été fermés ne peuvent pas continuer.
On va finir là-dessus. Je vous remercie Fabien Esteliano, vice-président de la FCPE 72. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.